Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Kinder à nouveau pointé du doigt. La présidentielle est à 7 jours du débat d'entre-deux tours face à face à distance. Emmanuel Macron, lui, reçoit le soutien d'une cinquantaine de sportifs.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux favorables à un retour du septennat. Bonne idée ou pas, on en débattra à 12h40. À 12h50, le tollé des syndicats de Stellantis. Après la publication des revenus de leur patron Carlos Tavares, 66 millions d'euros pour 2021, justifié ou pas, en plein débat autour du pouvoir d'achat. Évidemment, ça fera réagir. 66 millions d'euros par an.
Par an.
2021.
La question du jour sur RTL.fr, elle concerne cette tribune donc des sportifs qui appellent à voter Emmanuel Macron. Les sportifs doivent-ils donner leur choix de vote? Vous dites non à 78%. Notre météo, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est bien gris.
Et oui, surtout sur toutes les régions centrales avec des pluies plus marquées cet après-midi sur les Pyrénées et un peu plus faibles en allant vers le nord. Sur le nord-ouest, quelques éclaircies mais aussi des averses. Et dans l'est, là, le ciel est plus ou moins voilé mais sec. Les températures, elles sont en baisse sous la perturbation, mais toujours douce, globalement comprise entre 17 et 20 degrés à l'ouest et entre 20 et 24 à l'est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc les suites de cette affaire Kinder et ces cas de salmonellose dans les chocolats. L'ONG Foodwatch accuse le groupe Ferrero d'avoir tardé à retirer les produits des rayons. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
D'après elle, les autorités britanniques avaient alerté l'entreprise dès le 23 mars, soit 12 jours avant les premiers appels.
Oui, l'ONG affirme qu'à l'approche de Pâques, Ferrero a tenu à maintenir ses chocolats en rayon malgré l'alerte. S'ils avaient réagi plus tôt, dit Foodwatch, des contaminations auraient été évitées. De son côté, Ferrero ne dément pas. Ils reconnaissent avoir identifié la bactérie dans l'usine belge dès la mi-décembre, mais ils affirment avoir fait le nécessaire à ce moment-là, en interne, sans alerter les autorités de santé.
Alors Agathe, on est à quelques jours de Pâques, c'est ce week-end, on est bien d'accord, il n'y a aucun risque avec les chocolats qui sont actuellement en magasin.
Non, il n'y a aucun risque. Ceux qu'on trouve dans les rayons en ce moment sont soit produits dans d'autres usines, soit pas concernés par les rappels, car toute la gamme Kinder n'est pas touchée.
Alors si on a dans ces placards des chocolats Kinder, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on peut les manger sans problème?
Eh bien la semaine dernière, pour le savoir, il fallait regarder la date de péremption, mais depuis vendredi, ce n'est plus le cas. 5 catégories de chocolats Kinder sont concernées dans leur ensemble, notamment les Kinder Surprise et les Chocobons, quelle que soit donc la date de péremption. Donc si vous en avez chez vous, allez sur le site ferrero.fr pour vérifier si votre chocolat fait partie de la liste des rappelés. Si oui, dans le doute, il vaut mieux le jeter.
Merci à vous Agathe Landais pour ces précisions. Autre scandale sanitaire, celui des pizzas Buitoni, et on apprend que des perquisitions sont menées actuellement dans l'usine de Caudry, usine où la production de pizza avait été interdite par la préfecture du Nord la semaine dernière. Information d'Antoine Decarne, l'un des correspondants de RTL dans le Nord.
La présidentielle est en jour du second tour, le duel à distance se poursuit.
En déplacement ce matin dans une cimenterie de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, Marine Le Pen a réagi aux derniers chiffres des défaillances d'entreprises, plus 6,3% au mois de mars selon la Banque de France.
La France de Macron, c'est une France qui s'arrête au moment où nous nous parlons. Des entreprises ferment les portes. Beaucoup d'entreprises ne pourront pas rembourser les prêts garantis par l'État qu'ils sont censés rembourser au mois de mai. Que propose le gouvernement dans ce domaine? Donc il est absolument fondamental de proposer immédiatement aux entreprises, notamment pour les PGE, un allongement du délai de remboursement ou un report du délai de remboursement sans sanction bancaire.
Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
La France de Macron, c'est une France qui s'arrête, dit Marine Le Pen. C'est vrai ça, Martial?
Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, le nombre de faillites remonte ces dernières semaines. Ça remonte parce que le nombre de faillites était anormalement bas durant le Covid à cause du quoi qu'il en coûte. La France n'est pas à l'arrêt, c'est un retour à la normale. Et on est en dessous encore du nombre habituel de défaillances. 31 000 défaillances depuis le début de l'année. sur 12 mois même plus précisément, alors que c'est 52 000 en temps normal, vous voyez, selon le cabinet Altares. Donc on est encore pas loin de deux fois moins. On peut pas dire que la France s'est arrêtée à ce moment-là. Il faut un report ou un étalement des PGE, dit-elle. C'est déjà le cas. Le remboursement des PGE a déjà été rééchelonné sur 8 voire 10 ans, mais c'est une démarche que doit faire chaque entreprise à titre individuel auprès de sa banque ou du médiateur du crédit. Ça ne peut pas être une mesure générale parce que c'est un prêt que l'État cautionne, certes, mais que vous avez signé avec votre banque. Sans sanction, dit Marine Le Pen. Alors là, c'est vrai que c'est une inquiétude de beaucoup de chefs d'entreprise parce que c'est considéré comme une restructuration de sa dette et ça peut compliquer les futures demandes de prêts. Mais la PME n'est pas fichée Banque de France, ce qui est un fantasme qui n'existe pas. Ça n'existe que pour les entreprises qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires.
Martial Youssef, chef du service économie de RTL. Marine Le Pen qui, dans une semaine pile, sera face à Emmanuel Macron. Débat d'entre-deux tours. On se souvient du précédent de 2017. Cette fois, la candidate du RN a décidé de se mettre au vert deux jours avant, Marie Mollet.
Oui, une retraite au calme et au grand air dans la maison de campagne de l'un de ses conseillers, quelque part dans l'ouest de la France, pour plancher sur le débat. Là-bas, elle va répéter avec un sparring partner, hein, comme on dit, chargé de jouer Emmanuel Macron, un énarque qui a presque le même âge que le président. Il lui ressemble même un peu, plaisante un élu RN. Sur la forme, le camp Le Pen a un objectif: éviter le combat de boxe. C'était ça l'erreur stratégique de 2017, me disait un conseiller. Cette fois, on ne veut pas abîmer Macron, mais montrer qu'elle peut tenir la boutique, qu'avec elle, la France ne va pas s'effondrer. L'entourage de la candidate a même un modèle en tête, le débat Jospin-Chirac de 1995. Souvenez-vous, un débat propre dont on n'avait rien retenu. Parallèlement, ses proches ont commencé à travailler sur l'organisation pratique, négociations en cours avec les équipes Macron, avec une exigence côté Le Pen, resserrer les thèmes pour pouvoir approfondir sans courir après le temps, dixit un élu RN.
Alors ça c'est pour le clan de Marine Le Pen et du côté d'Emmanuel Macron, Olivier Bost.
Alors déjà, il n'est pas question pour le président candidat de s'isoler, lui, pendant trois jours, par exemple à la Lanterne, la résidence du président à Versailles. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, Emmanuel Macron veut garder toute latitude, toute liberté pour faire campagne. D'ailleurs, il y a déjà des déplacements qui sont prévus ou envisagés dans les jours qui précèdent le débat. Ensuite, sur les arguments à opposer à Marine Le Pen, en fait, Emmanuel Macron n'a pas franchement besoin de les préparer, il les a déjà, il connaît le programme et les faiblesses de son adversaire. D'ailleurs, plusieurs proches lui ont conseillé de ne pas aller chercher pendant ce débat Marine Le Pen, mais de la laisser plutôt se dévoiler pour mieux la contrer, pour montrer en fait qui est la vraie Marine Le Pen. Et puis enfin, et ça c'est un argument qui peut aussi s'entendre, pour les macronistes, les commentaires sont déjà de toute façon écrits sur le débat. Ça sera Marine Le Pen à gagner la confrontation, tout simplement parce qu'elle ne sera jamais aussi nulle, disent-ils, qu'en 2017.
Olivier Bosté et Marie Mollet, merci à vous du service politique de RTL.
Emmanuel Macron qui a reçu ce matin le soutien de certains sportifs.
Et ils sont une cinquantaine à signer une tribune appelant à faire barrage à Marine Le Pen, parmi eux Nicolas Karabatic, Tony Parker ou encore Estelle Mosley.
J'ai signé cette tribune tout simplement parce que j'ai l'impression beaucoup que les gens oublient. Et il ne faut pas oublier que Front National n'a jamais été un parti qui prône l'intégration, la mixité et tout ce genre de choses. Donc pour moi, il n'y avait pas de débat quand on m'a proposé de signer une tribune et de porter ma voix par rapport aux élections. J'ai dit bien évidemment. J'appelle à voter Emmanuel Macron, pas un vote blanc, parce que d'élection en élection, comme je l'ai dit, les taux se resserrent et chaque voix va compter. Chaque voix va compter et c'est important de montrer qu'on est investi et qu'on a envie aussi d'une France comme on la pense, c'est-à-dire une France ouverte, une France où il y a de la mixité, une France où il fait bon vivre et où on partage, où il y a du partage.
La boxeuse Estelle Mosley au micro RTL d'Isabelle Langer. Dans l'actualité également, la Haute Autorité qui recommande désormais aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche et ce de façon systématique dès le deuxième trimestre de grossesse. L'idée, ce n'est pas de les protéger elles, mais les nouveau-nés, comme nous l'explique Caroline Combeau de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes.
C'est important de le faire parce qu'on se rend compte que dans la population générale, la coqueluche est encore très très présente et constitue un grand danger pour la santé des nouveau-nés. Donc la stratégie actuelle était de vacciner la mère après la naissance, ainsi que l'entourage du nouveau-né. Mais on s'est rendu compte qu'on arrivait même dans ces conditions un petit peu trop tard pour protéger efficacement les enfants. Et donc, conformément à ce qui se fait déjà dans beaucoup d'autres pays d'Europe, il est enfin temps qu'on propose cette vaccination pendant la grossesse.
Des propos recueillis pour RTL par Agathe Landais.
La guerre en Ukraine n'est pas de couloir humanitaire aujourd'hui pour ceux qui veulent fuir l'est du pays.
Trop dangereux, dit Kiev. Rien qu'à Kharkiv, au moins 7 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Hier soir, le président Zelensky a par ailleurs annoncé avoir capturé un oligarque proche de Vladimir Poutine.
Il s'est caché pendant 48 jours avant d'essayer de fuir notre pays. Et c'est d'autant plus cynique qu'il a voulu se faire passer pour un militaire ukrainien comme un patriote. Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cet homme contre nos garçons et nos filles qui sont actuellement en captivité en Russie.
Bonjour Émilie Bojard.
Bonjour.
Et qui est cet homme que Zelensky propose d'échanger ?
Eh bien, c'est la 12e fortune d'Ukraine, estimée à 620 millions de dollars. Viktor Medvedchuk est très proche du Kremlin et de Vladimir Poutine. Le président russe serait même le parrain de sa fille. Avocat, homme politique, Viktor Medvedchuk siégeait encore il n'y a pas longtemps au Parlement ukrainien sous les couleurs d'un parti pro-russe. Il était toléré par le gouvernement car il était un canal de communication avec le Kremlin et notamment dans les discussions avec les pro-russes du Donbass. Récemment accusé de pillage des ressources naturelles en Crimée, Viktor Medvedchuk était assigné à résidence depuis presque un an. Mais dès le début de la guerre, il a disparu de chez lui, près de Kiev. On découvre donc finalement aujourd'hui que l'homme de 67 ans était toujours en Ukraine.
Émilie Bojard du service étranger de RTL. Toujours à l'étranger, cet accident de bus à Assouan dans le sud de l'Égypte. 10 personnes ont été tuées, dont 4 Français et un Belge. 14 autres blessés. Le véhicule qui transportait des touristes est entré en collision avec une voiture pour une raison encore indéterminée. Et puis c'est le plus vieux champion olympique français encore en vie, Charles Coste, 98 ans. Il va recevoir aujourd'hui la Légion d'honneur. Tenez-vous bien, Pascal, ça fait 74 ans que ce cycliste médaillé d'or au JO de Londres attendait cela. À l'époque, on ne les récompensait pas de la Légion.
Et vous l'avez peut-être entendu ce matin, effectivement, dans la matinale d'RTL. Une pause et dans une seconde, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux favorables à un retour au septennat. Alors ça, on n'avait jamais encore entendu parler du septennat pendant la campagne. Je ne sais pas si ça va passionner les foules. Bonne idée ou pas, en tout cas, on va en débattre dès...
Maintenant.
Dès après la pause. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je propose l'instauration du septennat non renouvelable, qui rendra à la fonction présidentielle son prestige et au président sa capacité d'une action longue, tout en le débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente.
Quand on parle de réforme constitutionnelle, je dis que le septennat me paraissait une bonne option, mais il ne vaudra de toute façon pas pour le mandat qui vient, d'évidence.
Vous ne vous l'appliquerez pas vous-même ?
Ben, c'est évident, on ne change pas les règles en cours de partie.
C'est un débat récurrent depuis l'instauration du quinquennat, le voilà qui ressurgit dans cet entre-deux-tours, le retour au septennat, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. Les deux candidats, vous les avez entendus, ils sont plutôt favorables. Alors faut-il vraiment faire marche arrière, revenir à 7 ans de mandat ? C'est le premier débat de RTL Midi. Avec nous Jean-Philippe Derosier, bonjour.
Bonjour.
Constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille et William Galibert du service politique de RTL. Bonjour William. Jean-Philippe Derosier, d'abord, vous êtes contre ce retour au septennat. Pourquoi ?
Bah, parce que le retour vers le futur, plus exactement là, c'est un retour vers en arrière, ce n'est pas une bonne option. On a abandonné le septennat principalement parce qu'il créait une arythmie électorale, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre les 7 ans du chef politique, c'est-à-dire le président de la République, et de la majorité dont il a besoin, c'est-à-dire les députés, l'Assemblée nationale, qui créait cette arythmie, c'est-à-dire que les deux mandats n'étant pas synchronisés, tantôt le pouvoir était attribué pour 5 ans, tantôt pour 2 ans, tantôt pour 3 ans, pour 4 ans, on ne savait jamais pour combien de temps est-ce que le pouvoir se attribué. Et donc on a aligné les mandats, on les a synchronisés et donc maintenant on sait que le pouvoir est attribué pour 5 ans, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas réfléchir à d'autres réformes, mais ce retour en arrière quasiment pur et simple ne me paraît pas une bonne chose.
William, c'est quoi les arguments de ceux qui défendent justement ce retour au septennat ?
En général, ça fait partie d'un package pour rafraîchir un peu la démocratie, ça s'accompagne souvent d'une dose ou voire d'une proportionnelle intégrale, aussi d'un recours au référendum. que dit-on, que disent les partisans du septennat? Ils disent d'abord que c'est un temps et un rythme suffisamment long pour ne pas être obsédé par sa réélection à partir du jour, du lendemain de son élection. Et puis, c'est un peu l'inverse de ce que vient de dire Jean-Philippe de Rosier, ça permet, et certains voient ça comme un avantage, de décaler ce calendrier électoral et donc potentiellement d'avoir parfois des périodes de cohabitation si nécessaire en milieu de mandat. En fait, c'est exactement les arguments inverses de ceux qu'on entendait il y a 20 ans dans la bouche des partisans du quinquennat. Et tiens, d'ailleurs, je vais vous faire écouter cette petite archive qui date de 1995. On est dans le débat de l'entre-deux-tours entre Lionel Jospin, favorable au quinquennat, et qui est face à Jacques Chirac, qui, lui, à l'époque, était encore favorable au septennat.
C'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long.
Et aujourd'hui, on a donc des candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui sont prêts à remettre quelque part leur légitimité en jeu en milieu de mandat, en organisant des législatives qui pourraient les mettre en minorité.
Dans l'esprit du général de Gaulle, monsieur de Rosier, il y avait aussi cette idée quand même de déconnecter la fonction présidentielle de celui qui a les mains dans le cambouis et qui mène la politique de la nation. Et il y avait une sorte de synthèse de 1000 ans d'histoire de France avec une sorte de surplomb monarchique qu'incarnait le président de la République, une sorte de père de la nation, et puis quelqu'un qui était, j'ai envie de dire, tous les jours les mains dans le cambouis. Cette idée-là, elle était intéressante dans la Constitution et elle était intéressante avec le septennat.
Oui, mais le septennat ne l'impliquait pas. La personne les mains dans le cambouis tous les jours, c'est le Premier ministre, vous ne l'avez pas cité. Et effectivement, encore aujourd'hui, le président de la République a besoin d'un Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui va au Parlement, qui va à l'Assemblée et qui fait l'interconnexion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Sa fonction a été dévalorisée. C'est Nicolas Sarkozy qui avait parlé à un moment d'un collaborateur, et on voit bien que Jean Castex, il est très peu présent.
Mais le général de Gaulle avait exactement la même analyse. Le général de Gaulle disait que le chef de gouvernement, c'était lui, c'est le président de la République, que le Premier ministre était le premier des ministres et qu'il n'était là que pour effectivement faire tourner la nation tous les jours, mais que les décisions fondamentales appartenaient au président de la République. Ce qui est essentiel, c'est que le Parlement retrouve une force qu'il a perdue au fil des années de la
5e
République.
Et c'est pas le quinquennat qui lui a fait perdre justement cette force-là?
Non, au contraire, parce que le quinquennat permet d'avoir une visibilité sur l'exercice du pouvoir que l'on n'avait pas auparavant. En revanche, une réforme qui est envisageable, c'est de prévoir l'élection des députés et du président de la République le même jour. Ainsi, les électeurs votent pour leurs députés au moment où ils votent pour leur président, sans connaître le résultat de l'élection présidentielle, permettant ainsi, le cas échéant, de corriger leur choix qu'ils font pour le président. Par exemple, dans le cadre de l'élection que l'on a aujourd'hui, on peut tout à fait envisager un vote utile pour un candidat au premier tour et le nuancer avec un choix au niveau des circonscriptions.
Monsieur
et
de
on
Rosier.
N'est pas ainsi connecté entre les deux élections. La légitimité des députés est plus propre et est moins entachée par celle du président de la République.
Monsieur de Rosier, très court, quand diriez-vous que le Parlement en France, sous la Ve République, a été puissant?
Ah, sous la Ve République, il ne l'a jamais été.
Ah bon, nous sommes d'accord.
Sous la Ve République, l'objectif même du général de Gaulle, l'objectif du général de Gaulle, c'était pas de faire un parlement godillot, mais de faire un parlement qui soit contrôlé par le pouvoir exécutif.
Nous
c'était exactement ce qu'il souhaitait pour mettre fin aux maux de la 4e République.
Et le régime dit des partis. Merci monsieur de Rosier, c'était très intéressant de vous écouter. William Galibert.
On précise que quoi qu'il arrive, le président élu le 24 avril fera 5 ans.
Ça, c'est
5 ans de mandat, ça ne changera
c'est
pas.
Le deal.
C'est pour la suite.
Je pensais qu'il n'y avait que des footballeurs qui gagnaient à plus de 60 millions d'euros par an. Eh bien non, il y a finalement le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, 66 millions d'euros. Je me demande, mais de quoi fait-il tout cet argent?
Ah bah ça, français, on ne sait pas, mais on va vous dire pourquoi, à quoi correspond cet argent.
66 millions d'euros, je ne savais même pas qu'un PDG pouvait gagner autant. À tout de suite.
RTL Midi.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Faut arrêter avec un seul homme qui va toucher 66 millions, 180 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. Il est là le scandale. Quand il pose le pied par terre, il y a 180 000 euros qui tombent. Les jeunes, ils touchent 1200 euros. 1200 euros à travailler pratiquement 6 jours sur 7 quand on ne chôme pas. Il est là le scandale.
Jean-Pierre Mercier, le délégué CGT de PSA, très remonté, vous l'avez entendu depuis la publication des revenus du patron de Stellantis, Carlos Tavares, 66 millions d'euros pour 2021, 180 000 euros par jour. Alors, une telle somme est-elle justifiée? C'est notre deuxième débat. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Arrêtons-nous d'abord sur ces 66 millions. Ça représente quoi? C'est pas tout à fait un salaire comme on peut l'entendre à première vue.
Alors en effet, si on regarde dans le détail cette somme XXL, ça correspond pas à un salaire pur et dur. Selon les comptes de l'entreprise, la rémunération de Carlos Tavares pour l'année, c'est en réalité une vingtaine de millions d'euros, 19,1 millions très précisément. Le reste, en réalité, 32 millions, ce sont des actions gratuites attribuées sur la base d'objectifs à long terme. Vous avez aussi 7 millions de variables liées aux objectifs, 5,5 millions pour la performance, un peu plus de 2 millions pour la retraite et pour la fusion entre PSA et Stellantis. Autrement dit, si l'on regarde ces 66 millions, le salaire représente environ un tiers de sa rémunération. Le reste, pour le moment, c'est pas du tout de l'argent qu'il touche aujourd'hui. Tout cela sera versé plus tard, lissé sur plusieurs années.
Et si on arrive à une telle somme, c'est parce qu'il remplit les objectifs qui lui ont été fixés.
Ah oui, clairement. Carlos Tavares a d'abord ressuscité PSA, qui était, on l'a oublié, hein, au bord de la sortie de route, même de la faillite. C'était en 2014. L'entreprise allait très mal. Cet ancien de chez Renault, d'ailleurs ancien bras droit de Carlos Ghosn, a réussi à redresser le groupe. D'abord le rachat d'allemand Opel, un succès. Puis le mariage spectaculaire avec Fiat Chrysler pour créer le géant Stellantis. Hein, il y a 15 marques qui vont de Peugeot à Jeep en passant par Maserati. Stellantis qui cartonne pour preuve ses résultats records et qui a engrangé un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros l'an dernier. Somme en partie redistribuée aux salariés sous forme de primes. 4 000 euros pour chaque salarié du groupe.
Il y a une assemblée générale de Stellantis cet après-midi. Est-ce que cet AG peut faire basculer les choses?
Alors, ce sera aux actionnaires de décider lors de cette assemblée générale qui aura lieu en visioconférence depuis Amsterdam, le nouveau siège du groupe. Il faut savoir qu'à plusieurs reprises ces dernières années, des rémunérations considérées comme excessives ont été rejetées. Souvenez-vous, en 2013, dans la même entreprise, enfin PSA, Philippe Varin, qui est à l'époque le patron de PSA, avait dû renoncer à sa retraite chapeau de 21 millions d'euros sous la pression politique et médiatique. Mais ce n'était pas le même contexte. L'entreprise était dans le rouge et avait même dû emprunter à l'État et lui était d'une certaine façon redevable. Là, pour les actionnaires, Carlos Tavares apparaît comme le sauveur. Stellantis est aujourd'hui le cinquième plus gros constructeur mondial et a réussi un chiffre d'affaires qui a bondi l'an dernier de 145%.
Oui, effectivement. Mais si on compare aux rémunérations des autres grands patrons, il est dans la moyenne, plus, moins?
Alors, comparé aux dirigeants américains, il est dans la moyenne. 20 millions, ça à peu près ce que touche le patron de Ford ou General Motors. En revanche, en Europe, il est le mieux payé, hein, 10 de plus que le PDG de Volkswagen, et c'est 13 millions d'euros de plus que pour celui de BMW, par exemple. Alors, en fait, les dirigeants américains sont traditionnellement mieux payés que les Européens. C'était d'ailleurs l'argument de Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault, lui cumulait les rémunérations, 7 millions chez Renault et 8 chez Nissan. D'ailleurs, en 2016, l'Assemblée Générale avait voté à 54% contre sa rémunération chez Renault. Depuis, son successeur, Luca Di Meo, s'est contenté, entre guillemets, de 3,2 millions l'an dernier.
J'imagine que ça fera réagir, bien sûr, oui. Les auditeurs. 66 millions d'euros de revenus, hein, si j'ai bien compris. Des actions gratuites, on les donne, mais il les a pas tout de suite.
En fonction des résultats aussi de l'entreprise. Ouais,
mais voilà. Elles sont des actions gratuites. Elles sont à lui aujourd'hui. Elles sont données.
Elles seront données en fonction des résultats du groupe. Encore une fois, si les résultats sont bons, il va y toucher. Si les résultats sont mauvais, il n'y touchera pas.
D'accord. Voilà. Donc c'est une part importante quand même, les actions gratuites.
Ah oui. Là, on est sur deux tiers, quoi, à peu près, grosso modo.
Donc c'est pas acté complètement ces actions gratuites. Il faut qu'il y ait des résultats qui suivent. Bon. 12h57. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.